Donc, je ne prends pas plus de temps pour passer la parole à Monsieur Bibard, donc, qui est philosophe et qui est titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité. Donc, à vous la parole. Et le temps que vous vous placiez, juste pour dire que la troisième conférence, on va la faire à la suite parce que la personne qui suit a des contraintes d'avion et on voudrait qu'elle puisse quand même prendre son avion après. À vous, Monsieur Bibard.
Merci, Monsieur Chambaud. Mesdames et Messieurs, bonjour. On a pris également la décision de faire une intervention d'une vingtaine de minutes plutôt qu'une demi-heure pour précisément libérer le temps des échanges. Je précise, la chaire Edgar Morin de la complexité, dont j'ai la responsabilité, est au sein d'une école de commerce, l'ESSEC, et du coup, je vais intervenir un peu dans le même horizon, mais sans du tout la même compétence. Là, je plaide absolument incompétent. Le même horizon que Marie-Josée Fleury, et qui a mis en relief, je trouve, de manière tout à fait exceptionnelle pour un amateur comme moi, si je puis dire, dans le domaine de la santé, la complexité des questions que vous devez traiter. Mais ce que je voudrais faire, c'est problématiser la question du changement du point de vue des postures des personnes et du point de vue managérial, donc m'adressant en particulier aux personnes qui sont en responsabilité, et en fait tout le monde de fait, de faire évoluer les organisations. J'ai vu le programme que vous avez, je crois savoir certains éléments du contexte de vos métiers. C'est extrêmement intense, difficile, exigeant. Ce que je voudrais problématiser est la chose suivante. Le premier point, c'est je pense qu'on ne peut résoudre un problème que si on l'identifie. Et ça peut paraître un truisme, mais c'est important de souligner un point qu'on reconnaît en théorie des organisations, et je vous parle également en tant que consultant et travaillant dans le domaine de la santé par ailleurs. Mais les organisations prennent peu le temps de reconnaître les problèmes qu'elles rencontrent. Et je vais m'en expliquer. Mais si on ne reconnaît pas un problème, on ne peut pas le résoudre. Le deuxième point à partir duquel je voudrais partir, c'est qu'on ne peut changer véritablement que s'il y a un point d'appui solide. Et ça, c'est un point très important qui apparaît actuellement dans toutes les organisations, et je suis convaincu dans votre secteur, mais partout, c'est que le changement est tellement impératif à notre époque qu'on ne s'occupe plus du point d'appui à partir duquel on peut changer. Et je voudrais, pour rapprocher cette idée, simplement donner cette idée de bon sens qui est qu'il n'y a pas d'élan sans appui. Si on veut s'élancer vers ailleurs, il faut un appui solide. Et s'il n'y a pas d'appui solide, ça ne marche pas. La troisième chose, le troisième point de départ de ma proposition, c'est celui-ci, c'est que on ne peut quitter quelque chose que si on le reconnaît d'abord. Et du coup, la question peut devenir, mais s'il faut changer, il faut prendre en compte le point d'appui solide à partir duquel on part, et on ne peut quitter le point d'appui solide que si on le reconnaît. La question devient, mais c'est quoi le point d'appui solide des organisations? Et là, je pense que je ne vais provoquer que du plaisir de la part de tout le monde. Ce sont les compétences qu'on a toujours déjà. Et les organisations, je pense que c'est très important de le dire dans les contextes de changement que nous connaissons maintenant, sont toujours déjà compétentes sur toutes sortes de choses. Mais, et c'est le problème que je voudrais poser, c'est que la visibilité des compétences, elle est très très difficile. Et pour une raison que je vais tenter d'esquisser le plus sobrement possible. Donc, qui est la chose suivante. Je pense qu'un bon moyen d'aborder la difficulté de la visibilité par les acteurs eux-mêmes de leurs compétences, c'est de prendre un exemple qui est assez courant. Moi, je vois très mal, donc je ne conduis pas, mais je sais un peu comment ça se passe pour acquérir le permis de conduire. Et ça paraît éventuellement tout à fait trivial et en dehors de la problématique qu'est la vôtre, mais je crois que c'est intéressant de méditer ceci. Est-ce qu'il a suffi pour passer le permis de conduire aux personnes qui l'ont, dont je suppose qu'elles sont la majorité ici, de connaître le code de la route? La réponse est évidemment non. Il ne suffit pas de connaître une injonction normative théorique pour savoir l'appliquer. Et la question devient, mais comment est-ce qu'on acquiert la compétence véritablement? D'une part, en connaissant le code de la route, équivalemment dans les organisations, en connaissant les protocoles, les règles, les normes qui président à leur fonctionnement, mais en les appliquant. Et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure qu'on applique une norme, qu'on applique une règle, qu'on applique un protocole? Du niveau conscient, Elle s'incorpore progressivement à force de répéter des opérations pratiques. Elle s'incorpore, et je pense qu'on le sait tous, elle devient spontanée. Et ce qui est très important à observer, c'est que si une compétence devient spontanée, comment ça s'exprime ? Quand on sait conduire, c'est que ce qui était présenté dans le code de la route sous un mode de réflexion théorique, normative, consciente, volontaire, délibérée, intentionnelle, j'accumule exprès ces termes-là, ça devient une pratique vécue, spontanée, réflexe, automatique, inconsciente. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, l'un des enjeux, c'est que les compétences des acteurs, vous et moi, au travail quotidien, la plupart du temps, elles deviennent inconscientes. Et un effet très simple, hein, c'est qu'on ne les voit pas. Et un effet très simple en termes de ressources humaines, de management des ressources humaines, c'est qu'il est assez difficile de reconnaître les gens pour ce qu'ils font, puisque personne n'y pense plus. C'est tout bête, hein. Mais c'est-à-dire qu'un des effets importants, je reformule un petit peu l'enjeu, c'est que au fond, on est compétent quand on ne réfléchit plus. Point. Je m'arrête un tout petit peu, même si j'ai peu de temps, pour laisser s'inscrire l'idée. Et je plaide coupable, hein, je suis largement compétent. Donc je ne réfléchis plus. L'enjeu est vraiment important, parce que ça veut dire que si c'est vrai, et là, pour le coup, je pense que ma collègue confirmerait, etc. C'est vrai dans les organisations au quotidien. Nous savons, vous savez faire des tonnes de choses. Et heureusement qu'on n'a pas besoin d'y penser pour les faire. Parce que s'il fallait penser à tout ce qu'on fait, je m'excuse de formuler comme ça dans le contexte où nous sommes, on deviendrait fous. Hein. Et ce n'est pas seulement de l'humour, c'est un vrai problème. Donc heureusement que nous savons faire des tas de choses sans y penser. N'allez pas dans un avion et le pilote n'a pas d'expérience. Donc, n'importe qui dans une organisation au quotidien fait des tonnes de choses sans y réfléchir, et tant mieux. Mais l'enjeu, c'est celui-ci, c'est que du coup, quand il faut changer, on ne sait plus à partir de quoi. On ne sait plus à partir d'où. On ne sait plus le point d'appui. Si je symbolise le point d'appui, moi je suis posé sur le sol, là. Symboliquement, le sol, ce sont mes compétences. Ce sont vos compétences. Mais on peut exprimer l'invisibilité structurelle des compétences en observant que sous ses pieds, on voit pas. Nous cachons notre base solide au quotidien du travail parce que nous la prenons comme évidente et heureusement, et c'est normal et c'est comme ça que ça marche. Et s'il n'y avait pas d'évidence, on ne pourrait pas faire le travail qu'on fait. Et l'une des conséquences, c'est que quand nous parlons la plupart du temps de tout sauf de ce que nous savons déjà faire. Et aller au bout de cette observation, au bout de ce problème, c'est déjà enclencher la réponse vers la solution. Du coup, mon intervention va être très rapide, j'ai fini dans 2 minutes. Pas tout à fait. Mais c'est déjà enclencher la solution parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut observer qu'au quotidien, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, on le fait, c'est très bien. Mais il suffirait du coup de se dire, on va regarder ce que l'on fait. Alors symboliquement, regarder ce que l'on fait, c'est faire un pas de côté, prendre du recul. Et quand on fait le pas de côté et qu'on prend du recul, on dégage l'espace sur lequel on était posé et on peut commencer à l'observer. Alors du coup, on peut dire, mais c'est facile, c'est formidable, il suffit de faire un pas de côté, de prendre du recul. Par exemple, lors d'un congrès annuel à Marseille. Et ce qui est excellent, c'est exactement ce que je crois que vous êtes en train de faire depuis 3 jours. Mais c'est rien de le dire parce que au quotidien des organisations, moi je suis sûr que plein de gens disent mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont tous en colloque pendant 3 jours et ils travaillent pas. Et c'est sans doute vrai, vous travaillez pas. C'est-à-dire que prendre du recul, ça prend du temps et ça angoisse tout le monde. Et là, pour le coup, je vais radicaliser un peu le propos. J'étais hier dans un contexte concernant la santé avec une même difficulté et l'enjeu de la discussion était comment faire que les transformations qu'on nous demande de mener et les transitions qu'on doit faire ne soient pas des occasions de rupture. C'est un enjeu vraiment important parce qu'il y a des situations où tout le monde souffre tellement ça va vite. Et pour le dire maintenant très simplement, c'est que quand les choses vont très très vite et qu'il faut absolument, comment on dit, délivrer, on prend ce mot de l'anglais, to deliver, il faut rendre des comptes, il faut aller vite, il faut changer, il faut montrer qu'on est bon, ben on n'a pas le temps de prendre du recul. Prendre du recul, faire un pas de côté, réfléchir de nouveau à ce que l'on fait, ça ne se fait pas, c'est pas politiquement correct dans les organisations.
Donc non seulement quand on est bon, on ne réfléchit pas, mais il y a une injonction de non-réflexion parce que ça fait perdre du temps. Et je caricature le propos, je radicalise le problème pour qu'on prenne en conscience rapidement, en 20 minutes, de l'enjeu. Mais évidemment, il mérite d'être détaillé, exemplifié, etc. Mais c'est important qu'on réfléchisse à ceci, si je campe le décor de nouveau, c'est nous sommes bons au travail quand nous ne réfléchissons plus à ce que nous faisons parce que nous avons des compétences réflexes. Et en plus, il y a une injonction à cause du court terme et de la nécessité de changer et de faire très vite et efficacement tout ce qu'on doit faire. Et donc, on n'a pas le temps de réfléchir. Il y a deux raisons pour lesquelles personne ne réfléchit au travail. Et du coup, la question devient, mais comment on fait ? Parce qu'il y a quand même, c'est quand même capital. Si on ne réfléchit pas, on peut faire d'énormes bêtises. Alors, j'avais prévu de raconter des exemples, mais je pense que je n'ai pas tout à fait le temps. Pour l'instant, je propose de dire l'enjeu. Ne pas réfléchir, c'est tenir les choses pour argent comptant et tenir les choses comme allant sans dire, au sens fort du mot, on n'en parle pas. Puisqu'elles vont sans dire, on n'en parle pas. Et il y a plein de choses qui vont sans dire au quotidien des organisations, et quand elles vont bien, c'est un bon silence. Mais quand elles vont mal, ce qui se passe le plus souvent, puisqu'on est posé sur ce qu'on sait faire, on bavarde énormément autour de ce qu'on ne sait pas faire, on s'angoisse autour de ce qu'on ne sait pas faire, et les mots, le langage ne sont pas utilisés de manière pertinente. C'est une espèce de frénésie de vocabulaire. Dans le management, il y a des modes. Actuellement, c'est l'agilité. Il peut y avoir le développement durable, il peut y avoir l'éthique, il peut y avoir la flexibilité, il peut y avoir la libération des entreprises. En passant, il faut libérer les gens, mais pas les entreprises, etc. Mais il y a toutes sortes de slogans qui, en fait, font des écrans plutôt par rapport aux choses qu'on doit faire et nous empêchent de réfléchir. Il y a une espèce de couche de langage qui ne sert pas beaucoup, qui signale des questions. Mon propos n'est pas de dire que les mots que je viens d'employer n'ont pas de sens. Mais si on les emploie comme des slogans, ils n'ont plus de sens. Et si on observe bien comment on s'exprime dans les organisations, je ne connais pas bien votre secteur, donc je ne me permettrai pas de faire des hypothèses. Mais à vous de voir, mais je crois que très souvent, on a plein de mots qui ne disent plus rien parce que répéter les mots nous rassure, mais on n'en fait rien de particulier. Et le rapport entre ce qu'on dit et ce qu'on fait devient complètement tendu. Il y a un gouffre entre les mots et les choses, ce qu'on est capable de faire vraiment. Et je vous propose, du coup, la situation devient celle-ci. Il y a une base solide sur laquelle on est posé. Quand il faut changer, on ne se rend pas du tout compte qu'on ne peut changer que parce qu'on prend en compte la base et on prend l'élan à partir de la base, ce qui veut dire qu'on ne peut commencer à vraiment changer que si on reconnaît les compétences sur lesquelles on est posé, et donc on ne peut quitter les compétences actuelles vers des compétences nouvelles que si on les reconnaît, et donc si on fait un pas de côté. Mais faire un pas de côté, ça prend du temps, donc on ne le fait pas. Donc on ne change pas. On parle du changement, mais on ne change pas. Et il y a un nombre d'organisations considérables qui sont boursouflées de discours sur le changement, mais qui ne changent pas. Je n'allais pas dire « suivez mon regard », j'ai aucune idée. Mais je connais beaucoup d'organisations dans d'autres secteurs qui sont comme ça. Malheureusement, et tout le monde en souffre, parce que les gens sont dans une injonction de changement frénétique, angoissée, inquiète. Il y a plein de procédures mises en route qui vont très très vite, et tout le monde finit par avoir l'impression qu'il faut changer pour changer, et on ne sait plus du tout en direction de quoi, et ça paralyse tout le monde. C'est dommage. Paralysé au sens médical. Hein. Et c'est dommage. Donc il y a un effet contre-productif des injonctions qui est très très problématique. Une solution très simple, parce qu'en fait, j'ai caricaturé le propos pour vous rendre sensible l'enjeu. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus nuancé, évidemment. Et je vais vous proposer une nuance, mais qui est assez, j'espère, qui sera parlante, si je puis dire, dans le contexte que je viens de tenter de camper, d'esquisser, qui est celle-ci. Il suffit de tenter de parler de ce que l'on fait. Ça n'a rien de simple, parce que quand on sait faire quelque chose, on le cache. Mais imaginez que vous êtes directeur, directrice, vous voyez un collaborateur, une collaboratrice faire quelque chose, là, soudain, d'impeccable. Il suffit de demander, de s'arranger pour que la question prenne sens, mais de dire, mais attends, t'as fait ça, comment tu fais ? Alors, en général, la personne peut être un peu surprise, mais attends, tu connais très bien mon boulot, comment ça se fait que tu me demandes, c'est quoi, c'est du contrôle ? Non, donc comment tu fais ? Raconte, essaye de me dire comment t'as fait ce truc, c'est impeccable. Et si vous convainquez en douceur la personne que vous voulez vraiment l'entendre, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un effort d'explicitation qui n'est pas simple du tout parce que ça n'est pas confortable du tout de parler de ce qu'on sait faire parce que ça ne sert à rien à première vue. Ça ne sert à rien de parler de ce qu'on sait faire. Faisons ce qu'on sait faire, point. Mais si la personne se met à faire l'effort pénible au début d'expliciter très concrètement ce qu'elle sait faire, ce qu'elle vient de faire devant vous, que vous avez observé, et qu'elle tente de le dire, il va se passer trois choses. D'abord, elle va finir par comprendre que vous reconnaissez son travail, c'est énorme. Chapeau, tu fais un très bon boulot, raconte comment tu as fait ça. Cette simple reconnaissance, c'est déjà considérable. Deuxièmement, en tentant d'expliciter, et encore une fois, au début, c'est difficile, c'est désagréable, on ne voit pas le sens, mais en tentant d'expliciter, si j'utilise un vocabulaire philosophique, la philosophie a été évoquée tout à l'heure, la personne va prendre de nouveau conscience d'elle-même. Elle va de nouveau découvrir ce qu'elle fait. En vous parlant, elle va faire un pas de côté. Ah, je fais ça! Et c'est très intéressant, le 360, par exemple, les bilans de compétences et autres jouent ce rôle. C'est « Ah, je sais faire ça ». Donc, deuxième effet, premier effet, c'est la reconnaissance. Le deuxième, c'est la prise de conscience de soi qui va rendre possible le langage, le discours, la discussion, le partage de compétences. Et troisièmement, et c'est ça qui vous intéresse à mon avis prioritairement ici, c'est, elle va vous dire « Je sais faire ça, voilà comment je fais. Ah tiens, ça, je ne sais pas le faire ». Et là, c'est du petit lait pour dire « Tu pourrais l'apprendre ». Et le changement peut commencer. C'est tout bête, hein ? Mais aider les gens, les mettre en posture, de leur donner la parole, de leur réapprendre, je dis bien réapprendre parce qu'on désapprend spontanément et inconsciemment à prendre la parole véritablement dans les organisations. Ce que j'appelle prendre la parole dans ce contexte-ci aujourd'hui, c'est parler de ce que l'on fait. Et c'est très difficile. On parle de ce que les autres font, on parle de ce qu'il faudrait faire, on parle de ce qu'on a fait, mais de ce qu'on fait, c'est extrêmement difficile. Eh bien, si par un tout petit geste comme celui que je viens d'évoquer, je suis bien conscient que ce que je vous évoque, c'est des choses de petite taille, mais il faut se méfier de l'effet gigantesque parfois des choses de petite taille. En théorie de la complexité, on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'effet papillon. Un tout petit truc peut provoquer de très vastes changements. On redonne la parole aux praticiens. On les aide à reprendre conscience de ce qu'ils font, alors qu'ils le font dans la précipitation et l'angoisse de délivrer tous les jours sans y penser. On leur redonne le temps, et ça prend pas beaucoup de temps, ce que je viens de vous dire, hein, ça prend 5 minutes, 10 minutes. On redonne la parole aux praticiens, et grâce à cette parole redonnée, ils prennent conscience d'eux-mêmes, et de ce qu'ils savent, et du coup de ce qu'ils ne savent pas, et que peut-être c'est pas si grave d'apprendre un truc nouveau, ils sont disposés au changement, et ils sont agiles. J'espère que j'ai été assez clair sur le contenu. Du point de vue théorique, entre guillemets, j'ai fini. Si j'ai le temps de donner un exemple, j'en rajoute. Mais sinon, je peux m'arrêter là. Donner un exemple ? Alors, c'est embêtant parce que l'exemple n'est pas joyeux. Mais puisque vous m'avez dit que je peux y aller, j'y vais. Merci, monsieur Chambaud. L'exemple est tragique, mais il est extrêmement illustratif. J'ai combien de temps ? Ok, j'ai le temps. Je pense, j'ai tout à l'heure demandé, d'abord merci pour votre accueil, et voilà, pour aujourd'hui, j'ai demandé à mon arrivée tout à l'heure, M. Moulec, si je pouvais parler de cet exemple, s'il était connu, etc. En tout cas, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Bhopal, en Inde, en 1984. C'est une fuite de gaz d'une entreprise industrielle américaine, Union Carbide, et il y a actuellement, on compte environ 30 000 victimes, des décès, des invalidités, des choses atroces, quoi. Il y a une fuite de gaz et qui est due à une chose très simple. Alors, je vais me permettre de mobiliser le paperboard et mes excuses, Madame Fleury, d'être derrière vous comme ça. Juste pour vous esquisser ce qui s'est passé, je vous garantis, Monsieur Chambaud, que j'ai fini dans 4 minutes. Il y a à Bhopal une usine qui produit des engrais pour l'agro-industrie. Et cette usine n'est pas assez rentable pour l'entreprise et elle décide en toute légalité et conformité avec le gouvernement indien de la fermer. Donc tout va bien du point de vue légal. Mais ce qui va se passer, c'est que le management s'en va de manière délétère en ne maintenant pas le sens de la vigilance auprès des personnes qui travaillent dans l'usine. Et au fur et à mesure que les licenciements commencent, qu'ils sont donc en réduction d'effectifs parce qu'ils vont fermer, les gens éprouvent le sentiment en interne qu'il n'y a plus rien à faire, qu'ils ont arrêté le fonctionnement de l'usine et que du coup, il n'y a rien de dangereux. Et au fur et à mesure, tout va un peu à volo, quoi. Et ils préparent simplement le démantèlement de l'usine. Le 2 décembre 1984, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une équipe de deux ouvriers qui passent une recommandation à deux autres. Et les deux ouvriers qui passent la recommandation aux deux autres sont des gens qui connaissent parfaitement le secteur où ils travaillent. Et donc, il y a pour eux des choses qui vont sans dire, qui sont évidentes, qui coulent de source. Et ils vont dire à leurs collègues, faites circuler... Alors, ce que j'ai symbolisé ici, c'est une cuve avec du gaz, avec un produit dedans qui s'appelle de l'isocyanate de méthyle. Et en bleu, c'est peut-être pas très visible, mais je vous indique, donc il y a un rectangle hachuré qui est une cuve remplie de produits chimiques. Et puis il y a en bleu un circuit d'eau qui, lorsque l'usine fonctionnait, était un circuit destiné à faire circuler de l'eau réfrigérée, de manière à équilibrer les réactions chimiques. Donc de l'eau froide autour des cuves chaudes, ça permet de tempérer les réactions. Donc c'est un système de contrôle des réactions chimiques. Et les deux ouvriers qui passent la recommandation à leurs collègues, à 15h le 2 décembre 84, leur disent « Vous allez faire circuler l'eau dans le circuit parce qu'on va démanteler l'usine et le moyen de nettoyer les circuits, c'est de faire circuler l'eau. » Est-ce que je suis assez clair techniquement ? Ça va ? Et donc voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils explicitent. Les deux collègues viennent d'un autre secteur de l'usine parce que les successeurs à 15h là ont déjà été licenciés. Comme ils sont en sous-effectif, ils mobilisent des gens d'ailleurs. Et les deux collègues qui viennent d'un autre secteur de l'usine ne connaissent pas le secteur. Et qu'est-ce qu'ils font ? Compliance, si je puis dire, j'exagère un peu, mais ils vont faire ce qu'on leur dit. Et donc ils vont ouvrir les vannes et faire circuler l'eau. Et là je viens à l'essentiel qui malheureusement est une illustration du fait qu'on ne parle pas de ce qui est évident, de ce que l'on fait. C'est que les deux ouvriers qui font circuler l'eau ne savent pas que le circuit a deux fonctions. La deuxième fonction, c'est de remplir les cuves. Et ils ne le savent pas, et pour cause, c'est qu'ils ne travaillent pas là. Et les deux ouvriers qui passent la recommandation à leurs collègues, on est analogiquement dans une situation de transmission d'informations entre services de jour et de nuit dans un hôpital, par exemple. Hein. C'est des gens qui passent des infos à une autre équipe. Eh bien, les deux collègues qui passent l'information, pour eux, il va sans dire... Je pèse mes mots pour le coup, il va sans dire que quand on fait circuler l'eau autour des cuves, c'est exclusif de remplir les cuves. Et donc, il faut clipser des cylindres métalliques que je symbolise ici en rouge, qui sont des cylindres qui empêchent l'eau de rentrer dans les cuves. Et pour eux, ça va sans dire, c'est évident. Et ils oublient de le dire. Pendant 8 heures, de l'eau va rentrer dans une des cuves qui contient encore 70% d'isocyanate de méthyle. Une réaction chimique va s'enclencher. Les jauges vont indiquer que la pression d'une des cuves monte à 15 fois la pression tolérée. Mais comme plein de jauges ne marchent plus et que l'usine va fermer et qu'on ne les répare pas, les ouvriers qui sont présents vont dire « bon, les jauges ne marchent pas hein. ». Évidemment, 15 fois là, ça n'a aucun sens. Donc ils ne vont vérifier que très tard, au bas de la cuve, que la jauge dans la salle de contrôle qui indique 15 fois la pression tolérée dit bien qu'il y a un problème. Et quand un des ouvriers va au bas de la cuve, constate que la jauge qui est au bas de la cuve dit la même chose que celle de la salle de contrôle, il revient très vite à la salle de contrôle, il dit à son chef, c'est un problème quand même, la jauge là-bas, elle a le même niveau. Le chef prend son vélo, il file à la cuve, et il voit la cuve fissurée, et le gaz commencer à sortir. Et là, il dit, mais c'est pas possible. On est à un silence près. Alors, je m'excuse d'illustrer de manière dramatique, tragique, ce que je vous ai décrit, mais malheureusement, c'est une illustration assez déterminante. L'accident de Bhopal est un des accidents industriels les plus graves qu'on ait connus dans l'histoire de l'industrie, comparable à Tchernobyl, etc. Eh bien, c'est à un silence près. Ça illustre que dans la spontanéité du fonctionnement quotidien des organisations, toutes sortes de choses nous sont évidentes et que nous perdons la compétence de parler de ce que l'on fait. Si on réapprend à parler de ce que l'on fait, il y a ce processus de pas de côté qui s'exerce. Et je vous le dis en tant que consultant, ça marche. C'est pas un miracle, mais ça s'exerce. Si on donne la parole aux gens sur ce qu'ils savent faire, ils sont reconnus, ils reprennent conscience d'eux-mêmes, ils découvrent ce qu'ils savent faire et ce qu'ils pourraient apprendre, et le changement s'enclenche en douceur. Merci. J'espère que pour le temps, ça va.
Merci infiniment, Monsieur Vibard.